6h-9h le samedi. Le trio.
Avec par ordre d'apparition cette semaine, Anne Lorganac.
Bonjour.
Pascal Bernheim.
Bonjour.
Et Geneviève Bridel.
Bonjour.
Allez, on reprend nos bonnes habitudes, Anne-Laure. On démarre avec vous.
Bonnes, je sais pas, mais habitudes.
Habitudes, voilà. En tout cas. Vous revenez cette semaine sur les soupçons de fraude électorale.
Y a-t-il de bonnes habitudes? Dites-nous tout.
Ça y est, j'ouvre le débat. J'aurais pas dû. On revient donc avec vous, Anne-Laure, sur les soupçons de fraude électorale à Genève. Soupçons qui ont depuis été larges, soupçons qui ont été depuis largement mis en doute par l'enquête. Tout n'est pas si clair qu'il pouvait y apparaître en premier lieu. Pourtant, les médias, le public se sont emballés, passionnés pour cette affaire. Une réaction qui vous interpelle, Anne-Laure.
Oui, pourquoi est-ce qu'on admet avec autant de facilité ou de résignation la possibilité d'une telle dérive, d'une pareille perversion du système démocratique? Qu'est-ce qui fait que, eh bien, passé le choc quand même de l'annonce, notre esprit puisse trouver l'information crédible?
Bon, bah, j'ai envie de vous répondre. Peut-être parce que les scandales politiques sont récurrents. Un de plus, ça nous surprend guère finalement.
Alors c'est vrai, l'idée du tous pourri hein, vient vite pointer dans nos esprits. Mais c'est prendre quand même un peu vite un fait abusif pour la cause du problème plutôt que pour une conséquence. Si de tels abus surviennent, c'est parce que le système démocratique les rend possibles. Autrement dit, il serait le signe de la fragilité de la démocratie, de son imperfection.
Ça veut dire que ce qu'on appelle parfois la crise de la démocratie n'en serait pas une?
Ou plutôt qu'elle lui serait consubstantielle hein, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, il n'y a jamais eu de démocratie sans crise ni sans abus. Oui, la démocratie est imparfaite hein, dans le sens où elle est foncièrement instable, en mouvement. Elle ne dépend pas d'une vérité qui en imposerait la légitimité parce que, eh bien, elle émanerait de Dieu, de la tradition ou d'une autorité possédant le savoir ou la richesse. Autrement dit, pour trouver un régime politique parfait, à entendre ici, évidemment pas en termes moraux, hein, mais au sens de système clos, figé, qui ne tolère pas la faille, eh bien, il faudrait aller voir du côté des théocraties, ploutocraties, hein, vous savez, le pouvoir aux riches, autocraties et autres dictatures.
Hein. Des systèmes parfaits au sens où ils sont déterminés dès l'origine et pour toujours, c'est ça?
Exactement. Donc la démocratie, au contraire, elle n'est pas déterminée. L'indétermination démocratique, ça c'est une thèse qui a été développée par le philosophe français Claude Lefort, disparu en 2010, et que l'on retrouve après lui, développé par des philosophes comme Pierre Rosanvallon, Marcel Gauchet, selon laquelle, je cite là Claude Lefort, la démocratie moderne, c'est la dissolution des repères de la certitude.
Pourtant, la démocratie est bien déterminée par le pouvoir du peuple, non?
Alors ça, c'est sa spécificité, mais ça n'est pas sa détermination dans le sens où, ben, déjà, le peuple, c'est un concept dont l'actualité nous montre souvent qu'il est problématique, hein, qu'il ne signifie pas forcément la même chose pour tous et pour chacun, selon son parti, ses croyances, etc. Parce que bien, le peuple n'est pas un unique, hein, il est composite, pluriel, et parce qu'il est en mouvement, il est vivant. Donc ça n'est pas tant une voix qu'un sempiternel débat entre plusieurs voix.
C'est donc sa force, mais aussi sa faiblesse, si je vous comprends bien.
Exactement, oui. Et les antidémocrates sont les premiers à le souligner. Hein. Platon, par exemple, s'il n'aime pas la démocratie, c'est parce qu'elle est, selon lui, un immense bazar, puisque, je cite, une multitude assemblée d'éléments disparates, où tous se vivent dans un excès de liberté, de volonté d'égalité, ce qui, selon lui, ne peut que finir par le triomphe de l'excès inverse, soit excès de servitude à l'autorité de la masse, soit servitude à l'égard d'un seul, plus démagogue que les autres. Alors ça n'est pas très joyeux tout cela, mais c'est tout de même très intéressant à entendre aujourd'hui pour d'autant mieux comprendre et peut-être dépasser les moments de crise ou de fatigue, disons, démocratique.
Alors comment les dépasser justement ces moments-là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Accepter l'imperfection de ce régime?
Effectivement, et reconnaître qu'elle n'est pas parfaite, mais qu'elle n'en reste pas moins, pour reprendre ce terme cher à Rousseau, perfectible. Sa survie repose peut-être sur cette quête de toujours plus de démocratie, ce désir, ou si l'on entend la notion dans son sens grec, cet amour, c'est-à-dire le fait de vouloir tendre vers. Et peut-être justement, comme dans tout amour, aimer la démocratie oblige à reconnaître ses failles, les admettre comme l'une de ses particularités, mais sans pour autant évidemment tout accepter d'elle. Et en cela, on pourrait dire que c'est un régime très adulte, parce que quand les autres régimes dits parfaits nous infantilisent en nous édictant la vérité venue d'en haut, elle nous responsabilise en nous contraignant à nous retrousser les manches pour ne pas la voir s'effriter. Et c'est cette responsabilité individuelle et collective, hein, que chaque crise ou soupçon de crise vient sans doute nous rappeler.
Vous avez cité alors Claude Lefort, ce sociologue français qui a beaucoup écrit sur la démocratie. On peut citer deux de ses ouvrages, Essais sur le politique et Platon, la République, c'est
non, ça, alors oui, je vous propose en fait de lire Claude Lefort, son essai sur le politique, et éventuellement de lire ou relire La République de Platon.
Voilà, bien sûr. C'est mieux comme ça. Pascal Wernheim.
Oui, alors c'est intéressant parce que au cinéma, à ma connaissance, de toutes les séries et tous les films qui parlent de démocratie, on montre des gens opprimés par d'autres, et ça a quelque chose toujours à voir avec la démocratie. Mais à ma connaissance, comme je disais, il n'en existe aucun qui cherche à prôner un autre modèle. Ou alors, ce sont des petites choses épisodiques qui n'ont aucun intérêt. Alors, par exemple, et au hasard, Game of Thrones. Tiens. Hein, Game of Thrones, ça provoque la discussion, les discussions à n'en plus finir, à propos de la tyrannie, sur la motivation des tyrans, l'aveuglement des tyrans, mais aussi la volonté de certaines et certains de protéger la population, de protéger le peuple. Et c'est bien tous ces débats. C'est juste dommage qu'on doive se taper des scènes de boucherie et de barbecue avec un briquet ailé qui a une tronche horrible pendant des heures. C'est des épisodes qui n'en finissent pas, qui sont plus ennuyeux les uns que les autres. Il y a d'ailleurs une pétition qui circule maintenant pour la huitième saison.
On sent que vous êtes à deux doigts de la signer.
C'est fait en ce qui me concerne. Et je pense qu'on pourrait même réécrire tous les épisodes qui n'ont pas été tirés des livres de George W. Martin, parce que depuis qu'on ne s'inspire plus de lui, puisqu'il est moins en avance dans l'histoire, et ben voilà. En ce qui concerne la fraude électorale, puisqu'on en parlait au début, je vous conseille la saison 5 de The Good Wife. Voilà.
C'est dit, Geneviève.
Ah ben, un livre qui se passe en Grèce, un livre qui a été un best-seller d'Oriana Fallaci, qu'on trouve chez Grasset en collection poche, qui raconte le parcours d'Alekos Panagoulis. Le livre s'appelle Un homme. Panagoulis a voulu faire exploser la limousine qui transportait Papadopoulos, le chef de la junte militaire au pouvoir en Grèce, justement. En 68, il a été arrêté, condamné à mort, gracié. Malgré lui, il ne voulait pas être gracié. Il a fait 5 ans de prison et c'est là qu'à sa sortie de prison, la journaliste italienne Oriana Fallaci, qui était déjà une star du reportage international, va le rencontrer, tomber follement amoureuse de lui et vivre avec lui une passion de 3 ans puisqu'il est mort dans un mystérieux accident de voiture en 76. C'est un livre plein de rage et de passion qui a beaucoup plu au moment de sa sortie de la part d'une femme dont il faut peut-être pas oublier qu'elle a été une résistante de la première heure. Cette italienne, même si sa mémoire est entachée par son dernier livre d'intolérance par rapport à l'islam, livre qu'elle a écrit sur un coup de tête après le 11 septembre. Voilà.
Merci beaucoup Geneviève Bridel. On passe à 7h40 à la série que vous nous avez choisie cette semaine, Pascal Wernheim. Elle a une musique enlevée, entraînante, pour une série qui l'est tout autant. Ça s'appelle Gentleman Jack, une série centrée, Pascal, sur l'homosexualité.
Oui, c'est ça. Le personnage principal, Gentleman Jack, son homosexualité ne fait aucun doute, donc elle est bien au centre du récit. Mais Sally Wainwright, qui est la créatrice, la scénariste, la showrunner et partiellement réalisatrice aussi de cette série, c'est à Sally Wainwright, on lui doit déjà l'excellente série Happy Valley, dont j'avais parlé ici même. Sally Wainwright donc nous raconte surtout une histoire d'amour et aussi un combat féministe, celui d'une femme qui a réellement existé en Angleterre pendant la première moitié du 19e siècle, Anne Lister, superbement interprétée, alors ça il faut le dire, par l'actrice britannique Suran Jones, remarquée dans Coronation Street notamment, mais surtout dans Dr. Foster, dont je vous ai parlé aussi ici. Gentleman Jack, c'est le nom que les habitants de Halifax donnaient à Anne Lister alors que ses amantes l'appelaient Fred.
Alors c'était qui cette Anne Lister, Pascal ?
Eh ben elle est née en 1791 à Halifax, qui est aussi la ville d'origine de la créatrice de la série Sally Wainwright donc. Et au Royaume-Uni on connaît surtout Anne Lister, propriétaire terrienne, pour sa très forte personnalité, sa notoriété en tant que première lesbienne modernes, entre guillemets, c'est-à-dire dans le sens où elles ne s'en cachaient pas et elles revendiquaient même le statut et la possibilité pour deux femmes de vivre en couple. Si on passe en France, alors là, on connaît plutôt Anne Lister pour avoir été la première à réaliser officiellement l'ascension du plus haut sommet des Pyrénées françaises, qui culmine quand même à une altitude de 3298 mètres, la Pique Longue, dans un massif dont le nom tombe lui aussi à pic, le massif de Vignemale. Quand même le faire. Et il y avait une compète là, parce qu'elle est arrivée en haut le 6 août 1838, juste trois jours avant Napoléon Joseph Ney, prince de la Moscova et fils du maréchal Ney.
Bon, sacré exploit pour Anne Lister. Dans cette série Gentleman Jack, on est donc dans le registre du biopic.
Oui, un biopic historique extrêmement bien documenté. Comme je l'ai dit, on est en Angleterre, dans le Yorkshire. On est au début du 19e siècle. Et Anne Lister, qui est une femme curieuse, insatiable, elle voyage énormément. Et au début du premier épisode, elle revient à Shipdon Hall, qui est la propriété rurale qu'elle a héritée de son tonton. Et on la voit arriver dans une arrivée absolument mouvementée, dans une diligence qui est bondée. Et mais c'est elle qui conduit la diligence parce que le cocher, il est tombé puis il s'est pété le bras. Donc elle a dû prendre les rênes. Et cette seule scène suffit à imposer la figure publique d'Anne Lister, une femme habillée en homme, extrêmement énergique, avec une démarche décidée, qui dégage une puissance énorme et dont on va très vite découvrir la dureté et la rigueur en affaires. Et toujours dans ce premier épisode, on va aussi découvrir qu'Anne Lister est rongée par le chagrin. Elle vient de rompre avec Vere Hobart, qui l'a abandonnée pour se marier. Et dès le début, et même en premier, on suit aussi l'arrivée d'une autre femme à Halifax. Elle est proche de la trentaine. C'est une petite blondinette, un peu diaphane, comme ça, qui a un visage d'adolescente, timide, pas très sûre d'elle, écrasée par une tante omniprésente et extrêmement vulgaire. C'est Anne Walker, riche héritière, elle aussi, interprétée très subtilement par Sophie Rundle, qu'on a découverte notamment dans Peaky Blinders. Et cette narration parallèle extrêmement classique ne laisse aucun doute quant à la rencontre des deux personnes, des deux personnages, ni sur les étincelles que cette rencontre va provoquer.
Bon, mais c'est pas un peu simpliste, voire cousu de fil blanc comme entrée en matière ?
Assez, oui, c'est assez cousu de fil blanc, mais c'est exprès, pensez-vous bien. Parce que Sally Wainwright nous propose donc une entrée extrêmement classique dans la série et petit à petit, ça va se transformer au fur et à mesure qu'on découvre la personne et les choix d'Anne Lister, ses engagements aussi, et bien qu'extrêmement conservatrice, là je parle d'Anne Lister, pas de la série, quant à son rang dans la société et son rapport au petit peuple, elle fait néanmoins tout ce qui est en son pouvoir pour faire exploser les convenances. Et on est en quelque sorte confronté à un personnage à deux faces qui inspire à la fois l'empathie et d'autres l'antipathie à d'autres moments. Et la série se pose donc pas comme une hagiographie un peu béate comme ça, unilatérale d'un personnage hors du commun. Il y a par exemple un parti pris qui m'a beaucoup plu, c'est celui de faire s'adresser Anne Lister aux spectatrices et aux spectateurs face caméra à propos de sa relation et de l'évolution de cette relation avec Anne Walker pour nous confier ce qu'elle ressent et ce qu'elle espère, parfois d'un simple regard extrêmement éloquent. Il y a un moment où Anne Walker lui demande ce qu'elle regarde et Anne Lister de répondre mais rien, elle peut pas lui dire je regarde la caméra, ça va pas. Et ces moments sont comme une métaphore du journal qu'a tenu Anne Lister pendant 34 ans, 24 épais volumes remplis d'une écriture minuscule dont une petite partie était en langage chiffré, où elle raconte toute sa vie. Il n'y a rien de littéraire là-dedans, mais il y a un témoignage de l'époque qui est, semble-t-il, fabuleux.
Gentleman Jack, série de la BBC et de HBO, qu'on peut voir où, Pascal ?
Sur OCS, via Téléclub Swisscom, c'est disponible 24 heures après la diffusion américaine. Il y a déjà 4 épisodes qu'on peut voir. Le 8e et dernier sera mis en ligne le 11 juin.
Geneviève, cette histoire d'amour homosexuel vous rappelle un certain livre de Chinelo Okparanta ?
Oui, qui est une auteure nigériane qui vit maintenant aux États-Unis et dont je crois avoir déjà parlé ici. C'est un roman d'apprentissage qu'elle raconte à la première personne du singulier. C'est celui d'une jeune fille abandonnée par sa mère pendant la guerre du Biafra, c'est à la fin des années 60 au Nigeria, et qui va être recueillie par une famille où elle va découvrir l'amour avec une jeune fille d'une autre tribu qu'elle va rencontrer au marché. Ça crée évidemment un scandale. On est pourtant en 1960-65. Sa mère, à qui la famille l'a rendue scandalisée, s'en aperçoit, décide de la purifier en l'obligeant à lire tous les jours la Bible. Il y a une prise de conscience chez la jeune fille des dangers de ses choix sexuels, étant donné la répression contre les homosexuels toujours en vigueur au Nigeria. Il y a des scènes de violence de rue terrifiantes dans ce livre, qui est quand même un livre plein de tendresse et de nostalgie, avec la nostalgie de l'exil évidemment, puisque Chinelo Okparanta vit aux États-Unis. Et ça s'appelle « Sous les branches de l'Oudala ».
Un joli titre. Anne Lorgana, qu'est-ce que donner plus de visibilité aux personnes LGBTIQ+, jusque dans la fiction, c'est une manière de combattre aussi l'homophobie?
Oui, probablement, mais bon, force est de constater que ça ne suffit pas encore. J'ai envie de répondre en citant la formule employée par le journaliste et essayiste en philosophie Raphaël Antoven. Combattre l'homophobie ne permet pas de la comprendre. En revanche, comprendre l'homophobie permet de la combattre. Et pour comprendre l'homophobie, eh bien, on peut se replonger dans Une histoire des sexualités, parue au PUF, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler ici, ou dans le Que sais-je, dédié à l'homophobie, dont la troisième édition vient tout juste de paraître. Elle est rédigée par Daniel Borio, qui est juriste et chercheur en études sur le genre, et Caroline Mécari, qui a été la première avocate à défendre les familles homoparentales en France. Donc on retrouve là les origines plurielles de l'homophobie, la distinction entre homophobie, discrimination et autres, la psychologie de l'homophobie. Et ils sont donc exposés sur une centaine de pages.
7h48, on va finir ce trio avec de la lecture à haute voix. Lire à haute voix ces textes avant de les publier, c'est une démarche littéraire que vous nous faites découvrir ce matin, Geneviève. C'est en tout cas celle de Laurence Boissier, elle est auteure genevoise. Elle publie aux éditions lausannoises Art et Fiction un recueil qui s'appelle Safari, un recueil bilingue, français et bernois. Pourquoi bernois?
À cause de Bernist Überall, qui est un collectif d'écrivains et musiciens créé en 2003, qui lisent leurs textes en plusieurs dialectes, dont le sourcilvanaire et le bernois, ainsi qu'en français, en italien et en musique. Les alémaniques appellent ça du spoken word, ils disent du spoken word d'ailleurs, tradition germanique issue du cabaret. Donc Safari de Laurence Boissier, qui a intégré le collectif en 2011, regroupe environ 40 textes qui ont d'abord été dits sur scène avec ses camarades, camarades qu'elle salue et remercie au début du livre.
Bon, forcément la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce qu'on remarque en les lisant que ce sont des textes faits pour être dits?
Alors c'est toute la question de l'oralité en littérature, c'est un vaste sujet dont on pourrait parler pendant des heures. Ma réponse, c'est que forcément, on est plus attentif et donc on constate qu'ils sont effectivement très oraux, ces textes. C'est vrai qu'il y a des phrases courtes, maximum 3 lignes, souvent une ligne et demie, ce qui n'est pas évident en français, d'après Laurence Boissier, qui a dit dans une interview « Quand j'écris des textes dynamiques, je prends toujours l'accent suisse-allemand. Ça m'aide à trouver le rythme. Les phrases en français ont tendance à s'effilocher, à tomber. »
Bon, Jean de Radio, prenons note. On le disait déjà pour l'anglais dans les chansons, pas pour le suisse-allemand dans les textes. Un mot peut-être sur cette auteure Laurence Boissier, Geneviève.
Oui, alors elle est artiste et architecte d'intérieur de formation. Elle a travaillé aussi comme déléguée au CICR plusieurs années, puis comme ingénieure en physique des bâtiments à Genève. Ensuite, de quoi elle a fait une formation en art et action, d'où sa proximité avec le collectif Bernist Überall. Et depuis, ça n'arrête plus. Elle a écrit 6 livres en 9 ans, reçu un prix suisse de littérature en 2017, c'était pour Inventaire des lieux, où on voyait déjà sa manière un peu décalée d'analyser le quotidien. Et puis il y a eu Rentrée des classes, qui lui a valu aussi 2 prix. Et voilà donc Safari, qui ne parle pas, contrairement à son titre, uniquement d'animaux, mais d'environnement, de couple, de transmission, de genre, de langue et de culture. Ce sont des textes écrits souvent à la première du singulier, au « je », de courtes réflexions sur les objets, sur notre société par exemple.
Bon ben justement, donnez-nous un exemple, Geneviève.
Alors je vais prendre une tradition suisse, les biscuits de Noël, dont la femme suisse est la championne, ce qui fait qu'elle en offre souvent, mais qu'elle en reçoit beaucoup aussi. Du coup, elle se retrouve, et là je cite Laurence Boissier, avec de nombreux sachets dont elle ne sait que faire. Moi je ne les mange pas, ce serait absurde, puisque les miens sont les meilleurs. Je les pose à la mosquée. Cette année, quand je suis arrivée à la mosquée avec tous les biscuits que j'avais reçus, J'ai vu une chose qui m'a profondément ébranlée. Poser là, sur une table, 3 sachets de mes propres biscuits. Plus rien n'est comme avant, n'est-ce pas ? Demande l'auteur qui ajoute « À qui je vais les donner ce que j'ai reçu ?»
Safari, on le comprend, on l'entend, ce sont des scènes de la vie ordinaire, mais pas que j'imagine. D'après le titre, c'est aussi un récit de voyage dans un parc animalier ?
Alors en l'occurrence, la nouvelle titre Safari, c'est le récit d'un accident en ville de Genève entre l'auteur et un 4x4 doté d'un magnifique pare-buffle, pas très utile en ville comme elle dit, et ça donne un dialogue absolument surréaliste entre la malheureuse victime à scooter que des urgentistes vont emmener à l'hôpital et la conductrice du 4x4 qui lui tient la main. Un dialogue qui se termine par cette injonction de la victime « Attention au buffle !» Et tous ces textes laissent à la lectrice une grande liberté d'interprétation. On peut choisir de rire ou non, de trouver que c'est grave en fonction de sa sensibilité. Pour conclure, je vous parlerai d'un de ces textes qui s'appelle « Les chaînes » et qui commence par « Moi, je voulais devenir le type qui trace les lignes blanches sur les routes ». C'est une fille qui parle. Et cette phrase revient comme un mantra tous les paragraphes. Sauf que juste après, il y a toujours une deuxième phrase qui commence par « Sauf que les petites filles ne peuvent pas devenir le type qui, etc. etc. » Et toutes les raisons qui sont invoquées à chaque paragraphe sont tout aussi bidons les unes que les autres. Alors je vous dis pas comment se termine ce texte parce que à un mois de la grève des femmes, ça risque de nous faire descendre tous dans la rue tout de suite.
Bon, suspense. En attendant, si vous voulez écouter Laurence Boissier lire ses textes, c'est tout à l'heure que ça se passe au kiosque des éditions Art et Fiction. C'est dès 16h à l'Avenue de France à Lausanne, avec à ses côtés 2 autres auteurs, Dorothée Teber et Alessandro Mercuri. On rappelle le titre du livre de Laurence Boissier, c'est Safari. Anne Organac.
Oui, lire, ça a été longtemps lire à haute voix, en fait. Hein. Ça signifiait vraiment lire à haute voix. La lecture silencieuse, c'est le propre de la lecture monastique, donc ça arrive plus tard dans le temps. Mais pour creuser ce sujet-là, je conseillerais de lire en ligne le travail de Laurent Génie, qui est professeur de lettres à l'Université de Genève, et son histoire de la lecture. Donc c'est disponible en ligne sur le site de l'UNIGE, et c'est vraiment très accessible et limpide.
Pascal.
Alors, j'ai la chance d'appartenir à une association qui prône la médiation culturelle entre les auteurs et les lecteurs.
C'est la Maison Éclose.
La Maison Éclose, voilà, c'est ça. Et nous voulons porter les textes des auteurs. Et nous avons proposé à la RTS une émission qui s'appelle Les mots délivrés. La dernière édition a eu lieu pendant le Salon du Livre. Et je vous propose d'écouter un extrait. Je le remets juste en situation. C'est Sarah Chiche, l'auteur des Enténébrés, qui a lu un extrait de son roman, et les 9 auteurs qui étaient présents pour l'émission étaient accompagnés par des musiciens, une musique spécialement composée pour chacun des extraits, et c'est Olivier Magarotto qui a composé la musique, qui est au clavier, il est accompagné par Ivor Malherbe à la contrebasse et Johan Vermeil aux percussions, et c'est Sarah Chiche qui lit.
On écoute.
Dans l'enfance, je traversais la nuit et de la nuit, je traversais l'aube jusqu'à l'école où je dormais dans les mots de ma mère. Voici quelques valeurs approchées du nombre pi au cours du temps. Pouvez-vous les ranger par ordre croissant ? Vous, oui, vous, Sarah, au tableau. Et plus vite que ça, vous dormez ou quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit à l'instant ? Je sais pas.
Bon, ça donne envie, cet extrait, Pascal.
Ouais, elle sait faire, en tout cas.
Ah oui, c'est de plus en plus d'auteurs se livrent à cet exercice. Et nous, à la Maison Éclose, on essaye d'aider les auteurs. On propose des formations aux auteurs pour apprendre ou pour sentir comment lire leurs textes en public. Et si vous voulez réécouter l'émission dans son intégralité, elle dure 2 heures, eh bien, vous pouvez aller sur Play RTS. Il faut chercher émission spéciale, parce qu'on ne trouve pas forcément les mots délivrés tout de suite. Mais enfin, voilà.
Eh bien voilà, c'est noté, on va écouter ça ce week-end. Et puis si vous êtes amateur de lecture, sachez aussi que le Grand Prix du Public RTS 2019 sera attribué dans quelques heures. Le jury d'auditrices et d'auditeurs se réunit ce matin. Le nom de l'heureuse ou de l'heureux élu sera dévoilé dans le 12-30 d'Yves Zano. Il viendra réagir ce soir dans Forum dès 18h sur la première. Merci Geneviève Bridel, Pascal Bernheim, Anne Organac, le trio du samedi matin. Très bon week-end à vous trois.
Bon week-end.
À bientôt.
6h-9h le samedi, sur la première.